Actu SF, les podcasts.
Bien, merci à tous et à toutes de venir assister à cette dernière conférence des Imaginales. Comme vous le savez, j'ai toujours plaisir à ouvrir le coup d'envoi du festival et j'ai toujours le moment à la fois de bonheur et d'émotion de terminer la dernière table ronde du festival qui évidemment est des intervenants parfois un peu fatigués en fin de festival, une animatrice généralement un peu exsangue mais qui néanmoins essaiera de passer la parole et de poser 3-4 questions pas trop stupides et puis on se quittera tout doucement dans le parc, peut-être profiter d'un dernier moment pour ne pas avoir de remords et acheter encore un ou deux livres que vous n'auriez pas encore pris à nos excellents auteurs et autrices. Voilà, on ne va pas baratiner plus longtemps, faire du blabla, on va rentrer dans le vif du sujet, fantasy, fantastique, science-fiction, un détour pour parler de nos sociétés, point d'interrogation. J'ai 5 auteurs et autrices sur ce plateau. Tout d'abord, Hildur Knudsdottir, qui, comme vous l'avez compris maintenant, nous vient d'Islande et qui a fait partie des 4 représentants de cet imaginaire nordique qui, déjà, je l'ai vu, commence à vous passionner, va de plus en plus vous intéresser. Je l'ai dit en cours de festival, nous les reverrons, ces auteurs nordiques, au fur et à mesure de leur prochaine parution et nous aideront à découvrir encore de nouveaux auteurs qui seront prochainement traduits en France. Ensuite, Victor Dixon, qu'on ne présente plus, comme on dit toujours quand on ne sait pas quoi dire, mais en réalité, Victor Dixon a été un des coups de cœur du festival et il a aussi obtenu ici un prix imaginal des collégiens, si ma mémoire est bonne. Yeah, c'est ça. Et puis, n'avions pas vu depuis quelques années Catherine Dufour. On la lisait parfois dans ses chroniques dans le monde diplomatique, souvent caustique et toujours intéressante. Et elle nous est revenue avec un beau roman de fantasy urbaine qui nous parle à la fois de vampires, d'histoires d'amour, de créatures et aussi du milieu du travail, tout ça bien sûr ayant un lien, on en reparlera. Vous voyez, pour le moment, on voit bien que tous ces auteurs parlent de nos sociétés, puisque Victor Dixon, avec Cogito, nous parle d'un monde un peu particulier où l'intelligence artificielle n'est peut-être pas notre amie. Charlotte Bousquet, alors Charlotte Bousquet, plusieurs prix aux Imaginales, que ça en devient énervant pour les autres. Coup de cœur aussi du festival il y a quelques années. Charlotte qui a aussi bénéficié d'une bourse du CNL, de la DRAC et de la région Grand Est, proposée et obtenue avec l'aide des Imaginales. C'est ce qui nous a permis de découvrir son dernier roman qui a été écrit à l'occasion de cette bourse, mais comme elle est généreuse, elle nous en offrira un second pour le même prix l'année prochaine qui bouclera cette nouvelle série, ou ce diptyque plus exactement, de la vraie fantasy qui se passe cette fois-ci, non pas dans le nord, dans le froid, mais dans la chaleur et le désert. Et enfin, le coup de cœur du festival, David Brick, on a eu pour certains d'entre nous le plaisir de lire depuis un moment, qu'on a découvert avec entre autres ses 2 derniers romans, un pour la jeunesse, une dystopie, et puis évidemment que Passe l'hiver, un roman nominé au prix Imaginal que j'ai profondément adoré, que le public est en train de découvrir et de redécouvrir. Il n'y a déjà plus d'édition de poche, il ne reste plus qu'un certain nombre, mais pas beaucoup, d'exemplaires grand format. Faites-vous plaisir parce qu'on remballe après, il n'y en a quasi plus. Ce serait bien qu'il n'en reste même plus un seul sur les tables. Voilà, j'ai fait le tour. Vous voyez bien là aussi que Passe l'hiver pose la question du pouvoir et d'un monde qui meurt. Et puis son livre pour la jeunesse, Le garçon et la ville qui ne souriait plus, à l'inverse, là, ce roman est une vraie dystopie qui pose la question des discriminations, de la liberté et de la façon de changer le monde. Vous voyez, des auteurs et des romans ambitieux. Alors, commençons peut-être par Hildur Knudsdottir, votre roman, votre diptyque, puisque ça se passe en 2 romans. On y trouve l'Islande, on y trouve des personnages en fuite, on y trouve des extraterrestres, on y trouve des sortes de mort-vivant, et on y trouve surtout de la dévoration, c'est-à-dire que ces extraterrestres viennent nous boulotter. Est-ce que c'est un détour pour parler de nos sociétés, Hildur Knudsdottir? Et si c'est un détour, votre roman, qui raconte une histoire, bien sûr, et qui nous passionne, si c'est un détour pour parler de nos sociétés, de quoi parlez-vous dans Sanglant hiver et sa suite?
uppáhaldsbækurnar mínar eru bækur sem eru skemmtilega sögur en má líka lesa á marga vegu.
Les livres que je préfère, ce sont des livres qui sont avant tout distrayants, qui doivent être avant tout distrayants, mais qu'on peut lire aussi de, avec différents niveaux de lecture.
Og mér finnst sko fyrst og fremst þarf sagan að vera spennandi, en svo finnst mér alltaf plús eða þetta lesa sem myndlíkingu fyrir eitthvað.
Évidemment, le premier but, hein, il faut que la première fonction de l'histoire, c'est d'être distrayante, d'être amusante. Mais c'est pas plus mal si dans l'histoire il y a aussi une portée métaphorique.
En à samanskapi þá finnst mér líka einhvern veginn leiðilegt ef að það myndlíkingin bara ein eða bara ein líking sem hægt að lesa inn í bókina.
En revanche, je trouve pas très amusant, très distrayant quand la métaphore, quand il y a seulement une métaphore dans un livre, quand est-ce que c'est clair? Quand le seul contenu du livre, c'est la métaphore, en fait.
Þannig að, sérst, ég var að reyna að skrifa bara fyrst og fremst skemmtilega og spennandi sögu sem maður má líka lesa sem kannski kommenta á alþjóðahyggju, veganisma, stríð, globalisma og hérna og svona drónahernað kannski.
Donc le livre que j'ai écrit, je me suis amusé à l'écrire. J'ai voulu écrire un livre distrayant, mais on peut effectivement lire dans ce livre un certain nombre de thématiques, par exemple sur le véganisme, la mondialisation, le capitalisme, la guerre, les expéditions de drones, les attaques de drones. Yeah. Qui sommes-nous? Qui sont les autres? Qu'est-ce que l'autre? On peut, dans le livre, on peut trouver toutes sortes de commentaires sur ces thématiques-là.
Victor Dixon, Victor Dixon, vous nous avez raconté la société du spectacle, y compris dans En direction des étoiles, dans votre grande saga sur 5 volumes, enfin, une tétralogie et puis une préquelle qui fait quand même une sacrée série, traduite, je le dis, en anglais parce que c'est toujours pas si fréquent pour nos auteurs nationaux. Vous avez écrit avant Animal, hein, et sa suite, vous avez écrit beaucoup de livres qui ont remporté un vrai succès public et critique. Et cette fois-ci, vous nous réservez d'ailleurs très gentiment, on vous en remercie, l'exclusivité de Cogito qui va être disponible là ces jours-ci, qui est donc une histoire d'éducation, si je l'ai bien compris, parce que je ne l'ai pas encore reçu, je veux plutôt le trouver en arrivant chez moi. C'est pour vous dire que ce n'est pas une fausse exclu, c'est une vraie, sinon je l'aurais déjà reçu. C'est donc un roman qui nous parle de l'intelligence artificielle. Et visiblement, vous n'êtes pas tout à fait dans cette histoire du côté de ceux qui pensent que toute intelligence artificielle et tout usage d'intelligence artificielle est simplement notre service et sans danger, Victor Dixon.
Effectivement, quand j'écris un livre de science-fiction, en l'occurrence, parce qu'il y a la fantaisie animale, hein, je pense, comme ça a été dit, que la fantaisie peut aussi parler du réel et poser des problématiques très concrètes de notre monde en passant par l'imaginaire, par les métaphores. Dans la science-fiction que je développe, dans Phobos et dans Cogito, je pratique plutôt de l'anticipation, c'est-à-dire que j'observe des éléments de notre société et je pousse le curseur un tout petit peu plus loin en imaginant ce que ça pourrait donner dans quelques années. Dans Phobos, c'était effectivement la société du spectacle, ce monde d'écran qu'on a construit autour de nous. Dans Cogito, c'est l'intelligence artificielle. J'ai la conviction très forte qu'il y a deux défis qu'on doit relever en tant qu'espèce humaine au XXIe siècle. D'une part, c'est le climat, l'environnement. Et ça, je pense qu'on en a tous pris conscience. Il y a une vraie prise de conscience des politiques, de la population également, avec les marches pour le climat. Alors on se demande, est-ce qu'il n'est pas trop tard? En tout cas, on est conscient du combat qu'il faut mener. Et il y a une autre révolution qui arrive très vite et qui est beaucoup plus souterraine, beaucoup plus invisible, c'est celle de l'intelligence artificielle. Elle a déjà commencé à travers nos applications. Elle commence également à révolutionner la médecine, l'agriculture, plein de champs de notre existence, en apportant beaucoup de progrès, mais peut-être aussi des dangers, des menaces. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, j'ai découvert un sujet complexe, mais aussi passionnant, et qui effectivement n'est pas tout noir ou tout blanc. Et ce que je regrette un peu, c'est que ça ne soit pas aujourd'hui l'objet d'un débat comme peut l'être l'écologie. Et je me dis que la fiction, et je ne suis pas le seul, hein, il y a de plus en plus d'auteurs qui s'y intéressent en tant que romancier, en tant que cinéaste, la fiction peut aider à poser le problème, à poser les questions. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans Cogito, de poser des questions sur l'intelligence artificielle en imaginant un monde futur dans quelques décennies où elle aurait envahi toutes les strates de la société. Avec notamment ce qu'on évoque pas très souvent, les conséquences sociales. C'est-à-dire que demain, quand les robots feront tout mieux que nous, qu'ils prendront tous nos emplois, qu'est-ce qui restera pour les hommes ? On s'est défini par le travail depuis des siècles. C'est ce qui a permis de répartir les richesses à travers le salaire. C'est ce qui a permis de nous définir en tant qu'être humain notre utilité dans la société. Quand les machines nous prendront cela, elles le feront parce qu'elles seront plus efficaces que nous dans presque tous les domaines, qu'est-ce qui nous restera ? C'est la question que j'ai essayé de poser dans Cogito, cherchant des réponses. Je ne sais pas si j'y suis arrivé, mais en tout cas, il y a un questionnement que j'ai creusé dans ce livre.
Catherine Dufour, vous nous entraînez dans une société un peu étrange, un peu mystérieuse, avec des propriétaires qu'on ne connaît pas très bien, qui sont dans les étages du dessus, la métaphore de la verticalité. La hiérarchie passe aussi par l'espace. Et puis, une jeune fille qui a quitté un travail, on a bien compris, qui n'avait pas été génial, retrouve une entreprise. Elle est donc ravie, tout en n'ayant pas très envie de travailler, j'ai bien compris. Et puis, finalement, elle va être un peu sous le charme d'un des dirigeants de cette entreprise. Et elle va découvrir l'envers du décor. Là aussi, est-ce que vous usez de la métaphore ? Parce que vous allez nous parler de vampires et de possession, ou est-ce que simplement, avec un effet qui est celui de la fantaisie urbaine, vous nous parlez de la réalité de plus en plus effrayante du monde du travail d'aujourd'hui ?
Oui, en fait, moi, je me sers vraiment de... Contrairement à ma jeune voisine, moi, vraiment, je me sers de la fantaisie pour mettre un maximum de thèses sociologiques dedans, quoi. Je défends un point de vue, je défends ce que je pense, j'essaie d'alerter sur les dangers que je vois ou j'entrevois. Et ben là, en l'espèce, le livre en lui-même, déjà, c'est parce que moi, je me suis intéressée à Twilight et à Fifty Shades, hein, pour faire la critique du concept nouveau de mommy porn dans le monde diplomatique. Et donc, du coup, j'ai lu Twilight, j'ai lu Fifty Shades, je les ai relus, quoi. Alors, c'est le même livre. c'est le même livre, sauf que bah, dans le second, l'héroïne a 10 ans de plus et elle a enfin des rapports sexuels, c'est moins qu'on puisse dire. Voilà. Bon. Mais sinon, c'est le même livre. Globalement, l'héroïne, elle évolue, c'est très bien. Bon, le garçon, il est aussi beau et sympathique que vous voulez. Par contre, elle est très pauvre, il est très riche. Est-ce que les bergères peuvent épouser des princes dans la vraie vie ? Eh bien, la réponse, si vous lisez les Pinsons Charlot, ce sont les sociologues des riches, moi, je voulais faire un peu les Pinsons Charlot chez Twilight, quoi. La réponse, je vous spoil la fin, la réponse est non. On ne peut pas sortir comme ça de son clan, de sa caste, parce qu'on n'est pas riche tout seul. On est riche parce qu'on fait partie d'une caste de gens qui défendront de toute façon bec et ongles l'André de leur petit paradis artificiel à toute espèce de pauvre qui essaierait de s'y introduire. Donc évidemment, là-dedans, j'ai mis le monde du travail tel qu'il est maintenant, hein, c'est-à-dire extrêmement précaire, avec des salaires à 3 chiffres, avec... ça, je l'ai trouvé, les toilettes qui ne sont pas entretenues. Dans les toilettes, il fait froid, il n'y a pas de papier toilette, il n'y a pas de lunettes, il n'y a pas de miroir. Et comme ça, on économise 2 jours de travail par employé et par an. Si vous avez des toilettes inconfortables, bon, ça fait partie des choses un peu concrètes que j'ai mis dans mon livre. Et à la fin, de toute façon, les deux héros ne peuvent pas s'entendre. Ils se déchirent parce que l'héroïne dit au héros, vous nous servez des salaires avec lesquels on ne peut pas vivre, mais avec lesquels vous ne savez même pas qu'on ne peut pas vivre, quoi. Et donc, ça finit... pas bien, ça y est, c'est plus la peine de l'acheter, vous savez, à la fin. mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de mettre en scène le réel pour qu'il soit plus accessible, pour qu'il soit mieux compris. Et là, j'ai sorti un livre qui s'appelle « Danse avec les lutins », qui est au sujet du Bataclan, parce que j'étais dans le coin ce soir abominable là, et où là, je me suis aussi servi d'une métaphore... fantasique pour arriver à parler de cette nuit, parce que moi j'arriverai jamais à en parler en direct, c'est juste indicible, et pour pouvoir en parler vraiment, moi ça m'aide d'avoir la métaphore fantasique Alors qu'effectivement, là je suis d'accord avec mon voisin, la science-fiction, ça permet plus de, d'essayer de prévoir, d'anticiper, de faire un pari. Hein, on met une pièce, on met un livre sur la table en disant ça va peut-être bien se passer comme ça, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, et pour dire vous êtes d'accord, parce que vous n'êtes pas d'accord, il faut, faut vous bouger. Ce dont je parle, c'est actuellement dans les labos, ça va arriver dans notre assiette dans 10 ans. Donc vous n'êtes pas d'accord, il faut faire quelque chose. Je sais que Stéphanie n'est pas d'accord avec cette vision-là de la science-fiction, mais bon, c'est celle-là que je défends.
Charlotte Bousquet, on l'a dit tout à l'heure, à quel dur on était dans le froid, dans les pays du Nord. Vous, vous êtes plutôt dans la chaleur et le désert. Comment vous faites dans des romans comme celui-ci, qui est un vrai roman d'aventure, de fantasy, comment vous faites pour, derrière des choses qui nous paraissent très lointaines, telles que vous les décrivez, comment vous faites pour parler néanmoins de nos sociétés et de certaines de leurs problématiques?
J'adore ces questions à 5h30 de l'après-midi. En fait, je vais être très direct, les mots sont des armes. Ça fait plus de 10 ans que j'écris. Je commence tout juste à assumer le fait d'avoir vraiment une écriture très engagée et d'avoir juste envie de défendre des valeurs auxquelles je crois profondément. Donc en fait, je me pose même plus de questions. Quand j'écris, de toute façon, mes personnages vont être problématiques. Mes personnages vont être poser des questions qui nous interrogent en tant que personne humaine et non humaine. Dans Chara, en fait, il y a trois peuples qui vivent sur cette terre qui est désertique, avec plusieurs formes de désert. Il y a les dunes de sable, il y a le désert de pierre, il y a des montagnes et tout ça. Le truc, c'est qu'il y a un peuple qui autrefois vivait dans une sorte de paradis perdu qui a été dévasté par on ne sait pas quoi, on ne sait pas trop quoi dans le roman, un truc qui s'appelle Laza, qui est une sorte de peste qui détruit tout. Et je pense que je suis tellement imprégnée de ce que je vois tous les jours quand je suis sur Facebook et que je vois qu'il y a des océans de plastique, qu'il y a la sixième extinction, que des gens crèvent de soif, crèvent de faim, qu'il y a des guerres, qu'il y a des viols de guerre, qu'il y a ce genre de choses, que je ne peux pas faire autrement en fait que d'écrire sur ces sujets. Et ça fait vraiment partie de mon ADN. Je vais avoir un ADN qui est hyper pollué quelque part. Mais voilà, pour moi, c'est très très important d'en parler, mais c'est aussi très très naturel. Comme il va être très très naturel de parler de la diversité, de parler d'avoir des personnages qui questionnent, qui évoluent. Il y a quelques années, j'en parlais dans une autre table ronde, j'ai lu un roman qui s'appelle Annabelle, qui parle d'une personne intersexe qui est opérée de force. C'est un roman qui m'a bouleversé, et les personnes intersexes sont effectivement continuent à être mutilées à l'hôpital parce qu'on va choisir leur sexe à leur place. Donc en Allemagne, depuis peu, c'est devenu un crime. En France, on attend toujours. Et je pense que c'est des choses qui sont extrêmement graves et dont on doit parler. Après, l'imaginaire est aussi effectivement un moyen d'interroger, de parler de nos sociétés, de lancer des cris d'alerte. Et je me rends compte malheureusement que c'est des choses qui sont juste des toutes petites choses pour faire bouger les lignes.
David Brie, alors je passe pour le moment, on y reviendra, sur Que passe l'hiver, où là la métaphore est plus importante et donc la critique sociale est beaucoup plus distante, plus difficile à percevoir. En tout cas, c'est pas le sujet immédiat du livre, même s'il y a des éléments de réflexion sur nos sociétés et sur les êtres humains. Mais je commencerai par le garçon et la ville qui ne souriait plus. Là, on est dans une dystopie, une sorte de 19e siècle un peu steampunk, tel qu'on en voit aujourd'hui un certain nombre, mais où vous avez directement posé la police de la norme, y compris dès la première page. Vous avez le décret qui met en place la police de la norme, et on découvre que celui qui a signé le décret, c'est l'évêque, c'est-à-dire directement le sabre et le goupillon, l'alliance, et que tous ceux qui sont anormaux, trop gros, vous n'êtes pas dans le bon genre, vous préférez les garçons aux filles quand vous êtes un garçon, les filles aux filles quand vous êtes une fille, des tas d'autres raisons font que dès que vous n'êtes pas tout à fait dans la norme, vous filez sur l'île de la cité, où c'est une sorte de camp il n'y aura pas de concentration tout à fait, mais de camps à ciel ouvert, où on se dit qu'au bout d'un moment, un tel camp, on va peut-être finir par le liquider. Les ghettos ne sont pas destinés au XXe siècle et même dans votre 19e dystopique à persister. Donc c'est un livre pour jeunes. Mais on voit, c'est quand même du lourd, et ça envoie du bois, comme on dit familièrement. Qu'est-ce qui, dans l'idée d'une police de la norme, est pour vous une façon d'alerter par rapport à ce qui est peut-être en germe dans nos propres sociétés aujourd'hui ? David Bri.
Alors, je trouve que c'est un sujet qui est très d'actualité. On est dans une société qui a beaucoup évolué. Aujourd'hui, je vais parler juste d'un truc très précis. On a eu le PACS, on a le mariage pour tous. On parle beaucoup d'égalité, on parle beaucoup de respect de l'autre, on parle beaucoup de respect des minorités. Et pour autant, moi, l'impression que j'ai en tant que citoyen, c'est qu'on a des crispations très fortes. Mais on le voit rien qu'en ce moment, c'est qu'à côté de ces libertés qu'on peut avoir, on a des cas de juifs qui sont agressés, qui sont insultés, le racisme est toujours aussi présent, on a les actes d'homophobie qui sont toujours très présents, on a une époque qui est compliquée, qui est en mutation très rapide, et des droits pour lesquels des gens se sont battus, compensés, acquis, et bien finalement, petit à petit, ils sont grignotés par des actes d'irrespect, par des agressions, par des choses de plus en plus graves. Et ces choses-là, bah, on a des petites alertes. C'est un jour, tiens, on voit aux infos qui s'est passé ici. Un jour, on est témoin de ça. Un autre jour, un ami nous raconte ça. Et puis, de manière très, très pernicieuse, les choses s'aggravent petit à petit. Et puis, un jour, bah, peut-être qu'on aura des lois de la norme. Et moi, c'est ce que j'ai voulu raconter dans ce roman. Et à destination de la jeunesse, faisons attention au monde dans lequel on vit. Faisons attention à ce qu'on tolère. Et je crois qu'il faut être très, très vigilant à ça. C'est que si on laisse faire les choses, mais les choses se font souvent toutes seules, et que c'est pas les gens les meilleurs qui imposent souvent leurs lois, parce qu'on se dit bah non, c'est pas forcément très grave, ou non, c'est le cas d'un fou, ou c'est le cas d'une minorité de telle ou telle mouvance. Mais moi je dis faisons très attention au monde dans lequel on vit, et parce que je crois qu'on peut changer le monde. Alors moi je suis un peu le business de la bande. Je crois que le monde peut être changé. Je crois qu'il faut porter l'espoir. En tout cas, je pense qu'il faut un monde où il n'y a plus d'espoir, c'est un monde qui moi me terrifierait. Donc j'essaie d'alerter en disant bah voilà, on peut changer le monde. Je vous présente un monde qui n'est pas celui dans lequel j'aimerais vivre. Soyons attentifs et essayons ensemble de le changer.
Il dure le deux tiers, vous. Dans votre histoire, même s'il y a plein d'autres choses, on l'a vu tout à l'heure, on a commencé à en parler, vous imaginez des extraterrestres qui débarquent, on ne sait pas pourquoi, mais ils organisent, ils bouffent les humains et en gros, ils organisent l'abattage. Évidemment, ça nous fait un peu bizarre parce qu'on se retrouve avec des personnages humains avec qui on sympathise, entre autres des personnages jeunes, mais pas que, y compris des adultes, pourchassés, qui soit tentent de résister, soit se cachent, mais sont menacés d'être mangés comme beaucoup de gens, et on se retrouve dans la situation où d'habitude sont nos animaux d'élevage, c'est-à-dire que ou ceux qu'on chasse, nous sommes l'espèce supérieure, on les tue, on les mange, et on a assez peu d'état d'âme. Finalement, est-ce que c'est ce détour pour parler de nos sociétés, en mettant des extraterrestres supérieurs qui nous bouffent, en tout cas qui mangent les Islandais, comment ça commence par là, est-ce que c'est une façon de nous dire, nous poser questions sur le fait que nous on ne se pose pas de questions, espèce supérieure de la planète, au moins en termes de domination, de manger les animaux. Est-ce que vous êtes végétarienne, Eldur Knudsdottir?
J'ai lu, je ne sais plus où, que l'être humain est la seule espèce qui est passée du statut de proie à celui de prédateur. Nous avons des dents qui sont faites pour manger des légumes et de l'herbe, mais pas de la viande.
En hérna, svo langaði mig líka bara svolítið að skrifa sko, að því við erum klárasta dýrið á jörðinni og það er mér finnst rosalega ókveikjandi tilhugsun ef að það kemur eitthvað sem er klárar en við og það er til dæmis það sem hræði mig við gervigreind.
Et effectivement, on peut penser que nous sommes l'espèce la plus intelligente, la plus maligne sur Terre. J'ai voulu explorer, en fait, l'idée qu'une autre espèce plus intelligente et plus maligne que nous viendrait sur Terre. Et là, cette hypothèse est absolument terrifiante pour nous.
Þannig að svona, ég var svolítið að sjá fyrir mér að hérna, ef að geimverurnar koma þá eru við kannski bara svona eins og fiskarnir í torfunni og svo kemur neti onni og þeir vita ekkert hvað að gerast
Et je me suis dit que si les extraterrestres arrivent effectivement disons que nous deviendrions peut-être simplement comme des poissons dans la mer, hein. Il n'y a plus qu'à plonger le filet et manger servez-vous, c'est prêt
Og hérna, ég elska allt með geimverum og ég les mikið bókum og hérna, horfa mikið að myndum en það fer alltaf svo í taugarnar á mér þegar allt útskýrt alveg í þaula af því að ég held að ef eða þegar geimverurnar koma þá munum við ekkit skilja endilega hvað það að gera
J'ai lu beaucoup de romans qui mettent en scène des extraterrestres des qui arrivent sur la Terre, etc. Quelquefois dans ces romans on explique beaucoup trop ça j'aime pas trop, moi j'explique rien dans mon livre parce que je pense que si effectivement les extraterrestres arrivaient on comprendrait pas non plus il y aurait pas besoin, on n'aurait pas d'explication
en sem sagt ég skrifaði þessar bækur ekki beinlínis sem eitthvað svona vegan áróður en það má alveg lesa þær þannig en það var kannski svona eitthvað sem kom eftir á sem var ekki endilega eitthvað meðviti hjá mér
Cela dit, ces livres-là, je ne les ai absolument pas écrits comme de la propagande végane. Ce ne sont pas des outils de propagande végane. En fait, je suis devenue végétarienne après avoir écrit ces livres. Mais évidemment, on peut lire, on peut interpréter ces livres comme de la propagande végane, si on veut.
Une sensibilité, on va pas parler de c'est un roman, évidemment, et passionnant, je l'ai pas lâché, les premiers puis du second, voilà. Évidemment que c'est pas de la propagande. Mais il y a une sensibilité. Autre sensibilité, Catherine Dufour, mais peut-être la même aussi partagée. En tout cas, dans votre roman, la sensibilité, les proies, c'est les salariés, clairement, et les prédateurs, ben, c'est les directeurs de l'entreprise. C'est les actionnaires, c'est les oligarques. Quelque part, c'est aussi une métaphore de la dévoration sociale, clairement. Et vous travaillez au monde diplomatique, là, votre siège est fait, Catherine Dufour.
Oui, non, mais c'est même pas une métaphore. C'est vrai que dans mon livre, là, il y a des vampires qui dévorent des humains. Enfin, c'est pas vraiment des vampires, vous verrez. Bon. Et puis, effectivement, il y a des dirigeants qui dévorent des salariés. Et bon, le problème, c'est que c'est les mêmes. Hein. Ils sont dirigeants d'entreprise le jour et vampires la nuit. Et ils ont strictement le même comportement de prédateurs, c'est-à-dire la cruauté gratuite, l'aveuglement. Et c'est un petit côté transhumaniste, parce que moi, c'est un truc qui m'inquiète. C'est qu'actuellement, bon, l'argent permet de se payer tout. C'est une baguette magique. Sauf le temps. Le temps et en fait la vie éternelle. Or, ils sont en train de travailler comme des brutes pour justement arriver à donner l'immortalité. C'est le transhumanisme. Le transhumanisme, c'est pas l'amélioration des humains, c'est l'amélioration des riches. Et leur objectif, c'est effectivement l'immortalité. Et le slogan de Google X, je crois que c'est tuer la mort. Enfin bon. Et le jour où Bill Gates deviendrait immortel, ou dans 300 ans, on aura toujours à la tête des sociétés les mêmes dirigeants que maintenant, ça sera cataclysmique. Imaginez qu'actuellement, ce soit toujours, on remonte 300 ans en arrière, on arrive à quoi, à la fin du règne de Louis XIV, non, imaginez Louis XIV encore à la tête du pays. Imaginez que vous allez par exemple parler d'IVG à Louis XIV. Hein. Louis XIV, il ferait cramer tout ça, il enverrait ses dragons, voilà. Donc, moi, c'est une chose qui m'inquiète vraiment, si vraiment ils arrivent... Pour le moment, ils arrivent à l'immortalité, ils n'arrivent pas du tout. Hein, une cellule immortelle, ça s'appelle un cancer. Mais s'ils y parviennent, ça va être cataclysmique. Là, j'ose même pas imaginer qu'on soit encore dirigé pendant encore des siècles et des siècles par les mêmes vieux barbons, qui sont en général désespérément des mâles blancs riches, qui n'ont pas le sens du réel, quoi.
président, comme dans Philippe K. Dick, qui est un robot, on a changé le cerveau, il est toujours au pouvoir. C'est finalement cette vieille idée de la science-fiction qu'on retrouve dans un roman de fantasy urbaine. Victor Dixon, on voit bien la peur par rapport au transhumanisme et en tout cas à son utilisation, en tout cas l'utilisation par certains. On voit bien ce que nous dit Catherine Dufour. Et puis vous, l'intelligence artificielle, pour vous, c'est le même type de danger ?
Pour moi, c'est à la fois toute technologie. Alors, c'est un grand débat en philosophie. Est-ce que la technologie est neutre ? Est-ce qu'elle est uniquement ce qu'on fait d'elle, bonne ou mauvaise en fonction de l'utilisation ? Ou est-ce qu'elle a une valeur morale en elle-même ? Je ne suis pas sûr d'avoir la réponse. Mais ce que j'observe, c'est que la technologie, c'est ce que disait Catherine, permet de concentrer le pouvoir aujourd'hui. Ça peut être le pouvoir sur le temps, la vie éternelle à travers le transhumanisme, et c'est vrai que c'est un des objectifs du transhumanisme parmi d'autres, à mon avis. Dans Cogito, je parle vraiment du marché du travail aussi et de l'automatisation qui va excéder l'automatisation de la chaîne à l'usine, comme on le voit depuis l'après-guerre, pour toucher tous les métiers. En fait, l'intelligence artificielle va être meilleure que nous pour tous les métiers, y compris les métiers intellectuels, entre guillemets, qu'on pensait préserver. Le métier d'auteur lui-même risque de disparaître, les métiers artistiques. Pourquoi des intelligences artificielles demain ne créeraient pas des romans ? Certaines le font déjà de manière expérimentale, et on peut imaginer qu'en se sophistiquant toujours plus, elles fassent des romans toujours meilleurs. Alors, est-ce qu'ils seront aussi bons que des romans écrits par des humains ? Ça, je n'ai pas encore la réponse, mais j'envisage cette possibilité dans Cogito. Et les riches, comme la caste dominante qui va peut-être atteindre l'immortalité grâce au transhumanisme, va également concentrer le capital, les outils de production de manière de plus en plus importante grâce à la robotisation. Le travail, la création de valeur jusqu'à présent, c'était le fruit du capital et de la main-d'œuvre, de la force de travail. Donc les humains avaient encore leur mot à dire. Mais demain, quand les robots feront tout, c'est ceux qui détiendront les robots qui détiendront l'ensemble de la création de richesses. Donc ça pose la robotisation de la société, ça pose ce problème de perte de sens, de perte de valeur pour nous humains, mais aussi un problème économique de fond qui ne peut déboucher que sur des situations révolutionnaires a priori, à moins de trouver une alternative, un autre modèle de société. Et on ne réfléchit pas du tout, enfin c'est pas un débat public aujourd'hui. Donc, moi dans mon roman je commence à un niveau où la société a été complètement envahie par l'intelligence artificielle. En plus, je rajoute les conditions du réchauffement climatique qui s'est accéléré. Donc, on a eu des grandes vagues de migrants climatiques qui font que les zones tempérées encore habitables sont devenues extrêmement denses. On est passé de la conurbation, vous savez, ces ensembles de villes qui se connectent les unes aux autres, comme on voit aux États-Unis sur la côte ouest par exemple, aux alturbations. Maintenant, on les empile en couches les unes sur les autres. Et bien sûr, ceux qui ont les moyens vivent dans les couches supérieures, ont encore un petit peu de soleil naturel, et ceux qui ont été déclassés par les robots vivent dans les couches inférieures des alturbations. C'est le cas de mon héroïne Roxane, qui a 18 ans. Ses parents ont été remplacés par des robots. Elle a perdu tout espoir pour l'avenir. Elle est à quelques mois de son bac, le bac qui n'est plus le baccalauréat, mais le brevet d'accès aux corporations, car l'éducation a été privatisée. L'éducation nationale va seulement jusqu'au bac. Et parmi les bacheliers, les corporations vont ensuite faire leur marché sur les quelques-uns qui auront la chance d'accéder au travail, et les autres végéteront dans les couches inférieures des alturbations. Et on va lui proposer, elle est tombée dans la délinquance, et on va lui proposer de manière un petit peu miraculeuse de participer à un stage de programmation neuronale. Alors qu'est-ce que c'est que la programmation neuronale ? C'est l'utilisation de l'intelligence artificielle pour améliorer l'esprit, le cerveau humain. On lui promet pendant une semaine de vacances dans un archipel tropical de lui télécharger l'ensemble du programme du bac dans la tête de manière à ce qu'elle puisse réussir brillamment son examen. Elle va signer, mais est-ce qu'elle a signé un pacte avec le diable ? C'est toute la question, et c'est ce qu'on peut découvrir dans les pages de Cogito.
On l'a vu avec l'anticipation horreur chez Eldur, on l'a vu à l'instant dans la science-fiction relativement court terme, anticipation dans Cogito, on l'a vu dans la fantaisie urbaine où la métaphore du vampire est même plus qu'une métaphore, parce que là c'est assez clair, et des dirigeants le jour et la nuit, mais en fait c'est les mêmes, et on est en danger aussi bien le jour dans le travail que la nuit dans les souterrains ou dans les villes. Vous êtes un peu plus dans la métaphore dans ce roman-là, pas d'autres, hein, vous êtes beaucoup plus clair dans des romans réalistes ou des romans qui ont une dimension fantastique, comme un de vos récents romans où vous avez abordé la question du viol. y compris avec un minimum de fantastique, qui fait que c'est un roman qui nous intéresse aussi pour les deux raisons. Et là, vous êtes plus, on disait, Chara, c'est le désert, c'est plus la métaphore. Qu'est-ce que dans Chara, qu'est-ce qu'il y a qui est une façon de parler de nos sociétés? Quel est le problème de société ou de rapport entre les gens qui peut se repérer, même si ce n'est pas au premier abord, dans votre roman?
Je ne sais pas, moi. disons que c'est des sociétés qui sont patriarcales.
Ben voilà.
Ah bah, oui, mais pas toutes. Les sociétés nomades ne le sont pas. Mais en revanche, effectivement, Chara, en fait, à la base, le modèle de Chara, c'était vraiment... j'étais partie dans l'idée de construire un monde à la Conan, et puis en fait, c'est parti sur autre chose. Mais c'est une société patriarcale, avec des seigneurs de guerre, et où, en tout cas, chez la société dominante, qui est une société sédentaire, on marie, on viole, et on exploite. Donc c'est une société qui est patriarcale et esclavagiste. On vit actuellement dans des sociétés patriarcales et esclavagistes. C'est vrai que je dirais que la différence, enfin les différences s'amenuisent. Hein. On a aujourd'hui toute la clique de Trump qui explique que les femmes sont là pour servir, faire des bébés et être tuées si elles veulent avorter, même après un viol et un inceste. Je dirais que quelque part, Chara, ils sont peut-être un peu plus doux, mais de base, il y a à peu près la même chose. Donc effectivement, quand on écrit là-dessus, on écrit aussi sur l'émancipation, la difficulté d'être soi-même, et puis comment se débarrasser de vieux guerriers sclérosés par des principes qui sont eux-mêmes construits, qui sont aussi des principes qui sont basés sur des richesses, et voilà. C'est clair.
Eh bien voilà, le patriarcat est nommé. David Brie, dans Le Garçon et la ville qui ne souriait plus, donc on a parlé de la police de la norme. Peut-être nous en dire un tout petit peu, juste pitcher, comme on dit, le roman n'est pas trop, évidemment, donné de pistes quand même. Mais là aussi, est-ce que vous racontez cette histoire différemment d'un roman adulte? Vous adressez en priorité, même s'il est très lisible par nous, est-ce que vous... faites différemment d'un roman adulte pour faire passer un certain nombre d'interrogations et d'inquiétudes?
Oui, complètement, et à deux niveaux. Le premier, c'est que j'ai voulu faire un roman d'aventure, mais ça rejoint un peu ce que disait Ildur tout à l'heure, c'est que je crois que le principe d'un roman, c'est d'abord d'amuser, d'intéresser, de faire rentrer le lecteur dans nos histoires à travers nos personnages, à travers l'aventure qu'ils vont vivre. C'est un premier niveau de lecture, c'est le premier. Mais après, c'est aussi de permettre une réflexion sur le monde que l'on propose, sur l'aventure que l'on propose, sur les personnages que l'on propose. Et donc là, dans Le Garçon, la vie qui ne souriait plus, en effet, comme vous l'avez dit, le roman commence avec les lois de la norme. Donc elles sont pas, elles arrivent avec en plus une petite la petite cerise sur le gâteau, c'est que si vous connaissez un anormal et que vous le dénoncez à la police de la norme, ben vous aurez un petit peu d'or. Donc un peu de délation, c'est quelque chose qui en rajoute encore un petit peu. Proposer un roman d'aventure à des lecteurs un peu plus jeunes. Proposer un monde dans lequel l'injustice et la peur de l'autre, la peur de l'altérité, c'est aussi leur proposer d'y réfléchir. Ce que j'ai voulu faire dans ce moment, moi je déteste qu'on me fasse la morale, et moi j'ai pas la prétention de faire la morale à qui que ce soit. J'ai proposé les deux versions. J'ai mis les lois de la norme, j'ai mis aussi des discours de ceux qui ont inventé les lois de la norme, qui expliquent de manière très, très raisonnée, hein, à quel point la différence est dangereuse pour une société, que toutes les sociétés qui sont effondrées, c'était à cause de l'autre, à cause du barbare, à cause d'être trop différent, en expliquant qu'on ne peut avoir confiance dans l'autre que s'il nous ressemble. Si on réfléchit pas trop, pourquoi pas. Et du coup, j'ai vraiment voulu confronter deux points de vue qui se construisent. Et puis après, ben, on peut y réfléchir ou pas. On peut juste rester sur le niveau de l'aventure, ou bien se dire, ben, tiens, à quoi ressemble ce monde et comment est-ce qu'on peut en arriver là. Après, ce que j'ai voulu faire aussi, mais c'est très en lien avec ça, et c'est là aussi où j'ai voulu dessiner ce roman à un public en partie un peu young adulte, c'est travailler sur l'image de soi, l'autre. C'est celui qui est différent par rapport à une norme, aujourd'hui on est dans un monde qui est finalement, je trouve, très stéréotypé, où si vous n'êtes pas une bombe blonde super bien foutue et un peu refaite, ou un beau gosse méga bien bronzé qui fait de la muscu avec des débardeurs de ouf, en fait vous êtes complètement nul. Moi je trouve ça réducteur, idiot, et je trouve ça fondamentalement et éminemment triste. Dans ce roman, j'ai voulu présenter des personnages qui sont différents, qui ont tous des différences. Il y a notamment Joséphine qui a 15 ans, qui fait 100 kilos, qui s'amuse avec des sortes de caisses à savon dans les égouts, et qui va à toute blinde et qui est connue pour être la meilleure pilote de ces voitures-là. Et c'est elle à qui on fait confiance, et cette jeune fille, elle s'éclate là-dedans. Moi, ce que je veux, ce que j'ai voulu, entre autres, dans ce moment, c'est représenter des personnages, des jeunes filles qui sont grosses, qui font des trucs, qui sont des trucs de mecs en plus, et qui sont excellentes, qui sont brillantes, qui sont courageuses. Et c'est aussi pour casser ces idées complètement idiotes qu'il faudrait représenter des stéréotypes pour être bien. L'adolescence, le lectorat plus jeune, c'est un âge qui est très fragile, c'est un âge qui est très compliqué. On peut très vite se faire embrigader dans des stéréotypes. Je trouve ça très triste, ça crée des gens malheureux, et en plus ça crée des gens qui sont pas eux-mêmes. Soyons nous-mêmes, aimons nos différences, portons-les et partageons-les. Je crois que je suis fondamentalement convaincu que la différence nous enrichit. Moi, j'ai eu l'idée de ce roman, je m'en souviens très bien parce que ça m'avait marqué. C'était une soirée où j'étais avec des potes au bord du canal de l'Ourcq, c'était hyper sympa. Et j'ai vu que j'avais autour de moi des gens très différents. Alors, il y avait moi, l'écrivain avec le côté un peu intello derrière, c'est pas toujours vrai. Il y avait des bobos parisiens, il y avait des gens qui travaillaient dans la manutention et qui manquaient des doigts, il y avait des blacks, il y avait des arabes, il y avait de tout. Et tout d'un coup, je passais un super moment, et tout d'un coup j'ai eu cette image de me dire, mais waouh, j'ai quand même vachement de chance de vivre dans un monde comme ça, dans un milieu comme ça. À quoi ressemblerait un monde où tout ça n'est pas toléré? Et c'est vraiment ce qui m'a donné envie d'écrire ce roman, avec aussi toute cette réflexion sur accepter les autres, mais aussi s'accepter soi.
On arrive bientôt à la fin de notre dernière table ronde. Peut-être passer la parole à chacun d'entre vous pour lui dire, pour lui demander plutôt que lui dire, c'est à vous de nous dire, comment vous articulez dans vos romans la part qui est quelque part ce que vous ressentez et ce que vous laissez passer au lecteur, et la part de la fiction, de la narration qui nous emporte et qui nous fait rêver. Où est-ce que vous mettez le curseur? Est-ce que c'est différent selon les romans? Est-ce que finalement la réussite d'un écrivain, c'est quand on lit vos livres et qu'on ne s'en aperçoit qu'après, en y réfléchissant, que vous avez aussi mis quelques idées? Et le dur pour commencer. Alors on va être plus court? Hein, Eric? On va être plus court, surtout à la fin de la journée. Puis si je suis long, c'est peut-être aussi que je suis fatigué, comme le traducteur. J'en profite pour dire que notre interprète et les autres interprètes, vous les voyez officiers, ça ne se voit pas, mais ils font un boulot incroyable, à la fois pour nous faire, pour traduire ce que nous disent nos auteurs étrangers, mais aussi pour vous faire entendre les sonorités de l'anglais, des différences de l'anglais, de l'américain, mais évidemment aussi, on l'a vu, du finlandais, et de l'islandais, parce qu'on est imaginal, dans la mesure du possible, on ne peut pas toujours y arriver, dans la mesure du possible, on aime faire entendre les différentes voix. La différence, c'est aussi ça, c'est des langues différentes, et c'est important d'offrir la possibilité aux auteurs de s'exprimer dans leur langue. Voilà, fin de la parenthèse et de ces remerciements à Eric Bourri et à tous les autres. Ma question plus simple, maintenant plus courte.
Já, ég held að þetta blandist allt saman af því maður sleppur aldrei frá sjálfum sér í rauninni.
Alors je sais pas si la réponse va tomber juste puisque j'ai essayé de traduire la question. Elle pense qu'en fait que Hildur pense que tout ça se mélange de façon extrêmement ça devient organique en fait, et c'est très difficile de faire la part entre ce qui est vraiment personnel et le fait d'autres choses, récits, narratologie et tout ça, parce que tout simplement c'est très compliqué de se fuir soi-même de manière radicale.
Og hérna, ég á svolítið marga vini sem eru rithöfundar og mér stundum svona dreymt um að vera gaman, þú veist, að gefa svona verkefni allir þetta, fá svona sama ramman og skrifa sögu upp úr sama, en þú veist, það kemur ótrúlega ólíkar sögur þó að uppleggi væri það sama.
Évidemment, j'ai plein d'amis qui sont écrivains, comme moi, et je me suis plus, enfin, souvent dit que ça serait assez intéressant comme expérience en fait, de donner à chacun exactement le même cadre, la même trame, et de leur demander par exemple d'écrire une nouvelle, et très probablement que les résultats, même avec le même cadre, la même trame, les mêmes éléments, les mêmes événements, les résultats seraient probablement très 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 différents les uns des autres.
Merci. Est-ce que pour vous c'est à peu près la même réponse ou légèrement différente, Victor Dixon?
Peut-être un peu différente. Et pour répondre à la question, c'est un peu ce que je disais au début, quand j'écris un roman, et surtout en science-fiction, j'ai pas de réponse. C'est surtout pour poser des questions. J'ai pas de message en fait à faire passer dans mes romans. C'est plutôt un thème, une question qui va m'interpeller à un moment donné de manière presque obsessionnelle, m'ôter le sommeil, et je vais rechercher sur ce sujet, et il y a un moment donné où la fiction va être pour moi le moyen avec mes personnages de creuser encore plus profondément ce thème, ce sujet. Et finalement le process du roman, le processus du roman, de l'écriture, de l'invention, c'est un moyen de formuler la question et d'aboutir sans doute pas à une réponse, mais en tout cas à un problème qui est clarifié à travers l'expérience de mes personnages. C'est ce qui s'est passé dans Phobos, sur la société du spectacle dans laquelle on vit, et c'est ce qui se passe dans Cogito autour de ce thème de l'intelligence artificielle, qui me paraissait très complexe de l'extérieur, et il l'est, mais plus j'ai creusé ce sujet, plus je me suis rendu compte que c'était fascinant et que ça avait vraiment, vraiment le pouvoir, ça j'en suis convaincu, de transformer complètement la société et notre expérience humaine.
Catherine Dufour?
Alors moi c'est l'inverse, moi j'ai un message quoi. Dans Entends la nuit, mon but c'était de faire comprendre à quel point le fait d'être très riche vous rend inhumain, c'est-à-dire différent des autres humains, de telle sorte que ça ne peut pas marcher une relation avec une humaine. Dans le livre suivant, Danse avec les lutins, c'est on est face tous au terrorisme, pourquoi et comment on s'en sort. Donc moi je suis allée poser des questions à un journaliste néerlando-marocain, Fouad Laroui, à une psychologue qui est experte auprès du tribunal pénal international et qui fait les profils psychologiques des tortionnaires, des terroristes, des dictateurs, et aller les voir et leur dire pourquoi et comment on fait pour que ça ne se reproduise pas, et puis ils me répondent, et puis du coup moi j'ai l'impression d'avoir une solution, donc je la mets en forme et je la propose à d'autres gens en disant voilà, moi ça m'a soulagé, voilà, j'ai une solution, je ne dis pas qu'elle marchera, mais je me dis ça va peut-être soulager un certain nombre d'autres personnes. Et autour de ça, je mets un habillage qui est le plus souvent inspiré de Terry Pratchett, parce que j'adore cet auteur. Je mets de la fantaisie parce que ça donne une distance qui rend le discours digeste. Donc moi, je suis très, très, très focalisée sur le message. Et alors, comme je veux bien écrire, je pille abondamment Shakespeare, par exemple. Mon méchant dans Entends la nuit, c'est Richard III. Chacune de ses répliques, c'est j'adore Richard III, j'ai traduit des... De toute façon, comme je l'imagine dans ma tête, en tant que Richard III et parlant comme Richard III, forcément, il y a des tirades de Richard III qui me ressortent sous le clavier. Voilà, c'est comme ça que moi je procède, mais j'ai un message.
C'est pas grave non plus, Catherine Dufour et Charlotte Bousquet.
J'ai oublié la question, mais je vois à peu près... Alors, en fait, j'écris dans plein de genres très très différents, donc j'ai pas particulièrement de méthode. En revanche, j'ai des thématiques qui me parlent, et je pense que si j'ai décidé, par exemple, dans Nos vies suspendues, de parler des conséquences d'un viol en réunion, ça se passe 3 ans après un procès, et comme de bien entendu, c'est de la faute des filles, elles avaient qu'à pas s'habiller en mini-jupe, et donc globalement, les coupables sont acquittés ou écopent d'une peine minimale. L'ex-petite amie d'une des deux filles qui était témoin, de toute façon, a fermé sa gueule et n'a rien dit. Donc voilà. Comme Catherine, je ne pense pas pouvoir aborder une thématique en étant juste là pour poser des questions. Donc mon message est assez clair. Et je pense qu'en écrivant, et les messages que je défends, comme les questions que je pose, vont être de plus en plus clairs. Quels que soient les sujets que j'aborde. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que on n'est plus dans un monde où on peut juste se contenter de s'interroger. On est dans un monde où, effectivement, la police de la norme est là. On est voilà, enfin les manifestations aujourd'hui dans notre pays sont réprimées dans le sang. Il y a des morts, il y a des gens qui sont mutilés, il y a des gens qui vont en garde à vue pour rien. On est dans un monde où il y a une bande d'abrutis qui détiennent les plus grosses richesses, qui ont décidé que finalement le glyphosate c'est bien, finalement on n'a pas besoin des gens, sauf à les considérer comme du bétail. Et c'était Marguerite Yourcenar qui disait que en fait, en gros, la manière dont était traité de bétail a servi aussi d'expérimentation pour les camps. En fait, on a exactement la même chose. On est dans un monde où les réfugiés aujourd'hui sont aussi traités comme des animaux, et les animaux sont traités comme des objets, et nous sommes aussi des animaux, donc nous sommes traités dans des objets comme des objets. Et je suis en train de m'énerver un petit peu, mais en fait c'est la dernière table ronde, mais là j'en peux plus, quoi. Il faut qu'on parte en guerre, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on il faut que ça change. Et pour moi l'écriture, même si c'est infime, même si effectivement ça se voit pas parce qu'il y a eu je sais pas combien de milliers de visiteurs aujourd'hui, en fait je suis assez terrorisée par la foule et les manifestations, donc je ne vais pas dans les manifestations parce que j'ai des crises d'angoisse, mais ma manière d'y participer c'est d'écrire. Et je pense que l'écriture aujourd'hui et les œuvres d'art c'est aussi une manière de lancer l'alerte. C'est comme ce que tu disais David, mais posez-vous la question, quel monde on prépare, dans quel monde on est en train de vivre, et qu'est-ce qu'on laisse faire. Et c'est aussi essayer de changer les choses à une toute petite échelle. Et je vais m'arrêter là parce que sinon je vous fais une conférence.
David Brie, pour conclure cette table ronde, allez-y tout simplement.
Je suis assez impressionné par les convictions. Il y a des auteurs de convictions, il y a des auteurs qui se prennent un peu la tête. Moi, je fais partie de la deuxième partie, donc je suis vraiment admiratif de ce que je peux entendre, et je le dis sans lécher les bosses, parce que j'en ai rien à foutre. Mais non, je trouve ça c'est indispensable aujourd'hui, mais comme ça a toujours été. Moi, je suis peut-être un peu plus auto-centré. C'est-à-dire que il y a un thème qui me fascine. C'est la perte, la dépossession, mais pas dans le sens social, dans le sens humain. C'est quand on avance dans l'âge, ça veut dire que quand on passe à l'âge adulte, ou quand on vieillit, ou quand on grandit, ou qu'est-ce que l'on lâche. Parce que je trouve ça éminemment triste, éminemment romantique. Et ça parle aussi de qu'est-ce qu'on garde. Dans Que passe l'hiver, c'est une sorte de passage initiatique, ou de moment initiatique, où Stig, le héros, il perd tout au long de ce roman. Il perd des choses, il souffre. Et ce roman parle de qu'est-ce que l'on perd, mais il faut se battre et pour garder certaines choses qui sont fondamentales. Mais dans mes romans, c'est quelque chose de plus personnel. Dans Le garçon, la ville qui ne souriait plus, c'est là où je commence effectivement à parler de choses qui sont un peu doubles. C'est-à-dire cette dépossession, elle peut être personnelle et aussi sociétale. Romain, qui est le héros du garçon, la ville qui ne souriait plus, il va se battre à la fois pour lui, il va perdre des choses, il risque de perdre beaucoup, et il le sait, il accepte de perdre des choses. Et là, pour se battre, pour un monde qu'il a envie de changer. Je crois que l'écriture, ce que l'on écrit, après c'est ma conviction, c'est pas une leçon. En tout cas, je ne sais écrire que ce qui me touche terriblement. Je dis souvent en riant qu'il faut qu'il y ait des tripes dans mes bouquins, sinon je ne suis pas vrai, sinon ça ne me touche pas, je pense pas pouvoir toucher l'autre. Et c'est moi à partir de ces choses qui sont très personnelles que du coup je parle de grandir, je parle de perdre, et j'essaye des fois effectivement aussi de parler de ma vision de la société. Et pour reboucler avec ce que je disais au début, c'est quelque chose qui est moins engagé que les discours que je peux entendre, et c'est une autre forme de littérature. Et je renouvelle mon admiration pour les combats qui sont pour le coup, et j'en suis fondamentalement convaincu, indispensables au monde d'aujourd'hui. Il faut s'engager. Il faut que la littérature s'engage, et l'imaginaire, c'est une littérature qui est, je crois, la meilleure pour ça. Comme disait Catherine tout à l'heure, en inventant un monde de fantaisie où on change juste quelque chose, on change le point de vue, on peut présenter des mondes et qui au final sont exactement comme les nôtres. Et ça, c'est fondamental, et du coup, c'est une littérature qui est extrêmement importante.
Eh bien, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Vous avez bien compris que si j'ai choisi ces 5 écrivains pour terminer ces imaginales, à part Cogito que j'ai pas encore lu, comme je l'ai dit, parce qu'on parle franc ici, mais tous les autres livres de Victor Dixon m'ont passionné, enthousiasmé. Donc j'aime tous ces écrivains. J'ai aimé tous vos livres totalement différents, avec des voix différentes. C'est aussi ça, la grandeur de la littérature. C'est le bonheur que vous, les écrivains et les autrices, vous nous offrez. Et c'est de ça que, organisateurs et festivaliers, on vous remercie. Vive les imaginales, vive la science-fiction, le fantastique, la fantaisie, vive la ville d'Épinal et vive les écrivains et les écrivaines.